Alors,
on se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeuristes. Bonsoir, vous êtes bien sûr Radio Campus Orléans. Et c'est maintenant l'heure de l'émission consacrée à l'actualité cinématographique, qui est donc de retour pour cette nouvelle rentrée. Et nous sommes très contents, contentes d'être ici présents pour vous parler de cinéma. Et je ne suis pas toute seule, car il y a Gob. Bonsoir.
Bonsoir. Ravi d'être de nouveau derrière ce micro. Nous avions été vaincus par la chaleur étouffante du mois de juin qui nous a empêchés de vous présenter nos 5 meilleurs films du premier semestre. Mais on se rattrape aujourd'hui.
Bonsoir Arnaud.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Vincent.
Salut Céline, bonsoir.
On fait une spéciale dédicace aussi à Claude qui n'est pas avec nous ce soir malheureusement, mais on pense très très fort à toi et on espère que tu seras avec nous sur la prochaine émission. Et oui, Gob, tu as raison, ce soir ce sera un peu particulier car... dans nos habitudes, à chaque fin de semestre, on fait notre top 5, enfin en tout cas pour le premier semestre, le top 5, et en fin d'année, le top 10. Et oui, la canicule...
On a
décidé autrement.
Et nous avons donc décidé de repousser cette émission spéciale à ce soir. Donc nous allons, malgré toute l'actualité riche,
débordante,
cet été et cette rentrée,
on s'offre une petite parenthèse.
Voilà, donc dans 15 jours, on parlera donc des films beaucoup plus récents. Mais ce soir, voilà, on va vous faire une sélection de nos 5 meilleurs films du premier semestre 2026. Et je propose à Gob de commencer pour son numéro 5.
Alors mon numéro 5, c'est un film japonais de Ryota Nakano qui s'appelle Mon grand frère et moi. Ryota Nakano, c'était le réalisateur japonais qui nous avait offert il y a 3 ans de ça à peu près maintenant un très joli film qui s'appelait La famille Asada. C'est tout ce que j'aime dans le cinéma japonais. En plus, je me suis rappelé que dans ce premier semestre 2026, j'ai vu, il me semble, 6 films japonais qui tous, chacun à leur manière, m'ont plu, m'ont séduit, m'ont ému. Donc il fallait en retenir un. Et j'ai retenu celui-là parce que moi, c'est celui qui m'a le plus ému, justement, le plus touché à travers cette histoire, comme très souvent dans les films japonais, c'est une histoire de famille. C'est cette femme qui part sur les traces de son frère qui est victime d'un accident, qui meurt trop tôt, et elle va reconstituer toute une histoire familiale en reconstituant une espèce de nouveau noyau intime avec la femme divorcée de son frère et la petite fille de celui-là. Elles vont reconstituer une nouvelle cellule familiale. Il va leur arriver plein de choses et voilà, ce film est très touchant. Il y a toutes les qualités de poésie, de tendresse qu'on affectionne particulièrement dans ce cinéma japonais. Voilà.
Redis le titre.
Mon grand frère et moi.
Arnaud.
Oui.
Son numéro 5, on va dans l'ordre.
Numéro 5, je vais juste préciser, alors sur ce premier semestre, c'est 19 films que j'ai vus. Donc le choix se porte forcément sur les 19 films en question qui ne sont loin d'être exhaustifs. Voilà. Alors, en cinquième, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts de Nia Da Costa. Suite donc du 28 ans plus tard de...
Ça y est,
de Danny Boyle.
De Danny Boyle.
Voilà, donc c'était plutôt inattendu comme virage dans la saga. Mais justement, pour moi, c'était une bonne surprise qui relevait un petit peu la déception que j'avais eue en voyant le précédent. voilà, y a pas...
c'est une sorte de diptyque. Hein.
Oui, en fait, ils fonctionnent vraiment ensemble. Ce qu'on voit dans le deuxième reprend évidemment, enfin, et pas évidemment d'ailleurs, des fois on s'en fiche, mais reprend effectivement la suite directe du précédent, mais pour le coup, en étant, je trouve, plus efficace dans sa narration et dans ce qu'il a proposé aussi, des choses plus originales peut-être, sans doute aussi.
Bah, moi, je me souviens que Nia DaCosta, cette réalisatrice, elle avait fait une relecture, il y a quelques années de ça, elle avait fait une relecture assez intéressante du Candyman de Bernard Rose, qui est quand même un petit classique des années 80,
parce que
de l'horreur
pas
des années 80, et elle avait fait une relecture de ce film qui était plutôt intéressante.
Bon, bah voilà. Maintenant, il faut qu'elle nous fasse pas une relecture, mais sa lecture, son propre projet.
Moi, je vous me pardonnerez cette petite incartade, mais j'ai mis des ex-échos pour démarrer.
Ah là là, ça y est, tu
ça va, je ne pouvais pas.
Claude n'est pas là, donc tu prends sa place.
Je n'arrivais pas, voilà, je voulais vraiment parler de 6 films plutôt que de 5 finalement. Donc mon top 5, c'est 2 films ex-échos. Pour moi, ce sera Des rayons et des ombres, le Xavier Giannoli, qui m'a marqué, qui m'a bien impressionné par son ampleur, son emphase. C'est pas le dernier film sur l'histoire qui s'installe de la Deuxième Guerre mondiale. Pour cette année, on s'en aperçoit qu'il y aura beaucoup d'autres, mais c'était le premier de l'année. Et voilà, il m'avait beaucoup impressionné par le sérieux du sujet, qui n'est pas facile. Hein. Donc une belle expérience en salle, avec un beau duo d'acteurs en tête d'affiche. Et en même temps, j'ai voulu mettre The Drama, en fait, que j'ai trouvé là aussi un duo d'acteurs entre Pattinson et Zendaya, très en force, avec un sujet assez bancal, mais un sujet qui est assez paradoxal, on va dire, ou perturbant, on peut dire, avec un secret. Ils ont quand même gardé le secret avant qu'on le voit en salle, ce qui était pas mal, parce que la bande-annonce vantait un petit peu un truc, et finalement...
Il y a encore des films sur lesquels ils arrivent à garder
un secret. Les gens n'ont pas trop spoilé avant qu'on... Donc j'étais plutôt content de ça, ça a marché. Et après, le succès... le secret exposé, souvent les films s'arrêtent là, et ça devient chiant. Et là, non, en fait, ça redonnait une densité, et le parti quand même était gagné. Et jusqu'au bout. Et c'est un film qui est assez bluffant quand même. Voilà.
Merci. Et oui, tu as raison aussi Arnaud d'avoir bien précisé. On n'a pas vu tous les films qui sont sortis en salle, évidemment. Et donc c'est une sélection de ce qu'on a pu voir. On n'a pas forcément tous vu les mêmes films également. Donc on ne retrouvera pas forcément les mêmes films dans le top 5. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Et eh bien moi j'ai mis en cinquième position Les Dimanches d'Alauda Ruiz de Asma, qui est une réalisatrice espagnole. C'est son troisième long métrage, et dans son film elle aborde le sujet de la religion et de son endoctrinement. Enfin, moi en tout cas je l'ai vu de ce point de vue là, et ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est l'ambiguïté de la position de la réalisatrice qui montre en fait qu'on peut vite être influencé, endoctriné par une communauté religieuse qui semble bienveillante et à l'écoute, mais qui finit par un enfermement. Et c'est un film qui m'a beaucoup surpris, qui questionne beaucoup, et je l'ai trouvé très intéressant dans sa réalisation. Voilà, Les Dimanches.
Mmh. J'ai bien aimé aussi celui-là. C'est vrai. On ne peut retenir que 5.
pardon.
Oui, alors deuxième film asiatique, le dernier de ma sélection. Alors là, on n'est pas du tout dans l'univers du cinéma japonais dont j'ai parlé avant, puisqu'il s'agit du film de Yeon Sang-ho qui s'appelle Colony. Un film de Corée du Sud. Voilà, Yeon Sang-ho, il nous avait fait il y a quelques années Dernier Train pour Busan, qui pour moi reste un maître étalon du film de zombies des 15 ou 20 dernières années, voire même le maître étalon du film de zombies des 15 ou 20 dernières années. Une mise en scène bluffante, c'était extraordinaire. Et là, je trouve que entre les deux, il a fait Peninsula, qui était une vraie déception, mais là il a remis le curseur très haut, et franchement, en termes de, si on va au cinéma pour voir de la mise en scène, alors allez voir Colony, parce que c'est impressionnant de la première à la dernière seconde. Il y a une chorégraphie des scènes d'action, il y a une manière de faire monter la tension, de se concentrer sur un groupe de personnages, de les rendre attachants, de mettre tout ça dans une espèce de marmite à ébullition et jusqu'à l'explosion finale. C'est, enfin, moi voilà, moi ce cinéma là il me bluffe, il me transporte. Pour moi c'est la vengeance du cinéma de genre asiatique sur des kilomètres de pellicules de très mauvais cinéma anglo-saxon. Voilà, donc c'est un pur bonheur, c'est extrêmement jouissif. Voilà, le cinéma de genre, ça devrait tout le temps être ça, du pur bonheur jouissif. Et voilà, moi honnêtement, j'ai pris un pied monumental devant ce film. Et vas-y, Yeon Sang-ho, continue, redonne-nous d'autres films de genre, redonne-nous d'autres films d'horreur, redonne-nous d'autres films de zombies. Et en plus, comme souvent dans les films coréens, c'est quand même intelligent. Il y a une vraie réflexion sur l'intelligence artificielle, notamment sur la manière dont l'intelligence artificielle essaye de refaire ce que font les humains et comment les humains vont être obligés de se réorganiser en société beaucoup plus fraternelle pour s'opposer aux zombies. Et tout ça dans un même film. Voilà, messieurs, dames, Colonie, allez-y.
Oh, tu donnes envie d'aller le voir.
On n'avait pas débattu quand...
Je suis pas sûr.
C'est parce qu'on on se serait écharpé.
Ah,
l'a vu, on n'a pas aimé, nous, justement. Grosso modo, pour toutes les raisons que tu viens d'invoquer. Mais voilà, c'est bizarre qu'on n'en ait pas parlé. Mais on ne va pas en parler maintenant, parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais voilà, on en reparlera une autre prochaine fois. Mais oui, effectivement, ça a été une déception de notre côté, par contre. Ouais, tout à fait.
Mais généralement, c'est bien parce qu'on fonctionne souvent comme ça, les gars.
Pas tout le temps.
Ça avait été pareil, rappelez-vous, sur Jurassic Park. Vous avez dit que vous n'aimiez pas pour toutes les raisons pour lesquelles j'aimais.
Qu'est-ce que c'était horrible.
Oui. Bon, le dernier train pour Busan, ça.
Ah oui, ça, on est tous d'accord sur ça.
D'accord sur Busan.
Ouais, oui,
exactement.
Il n'y a pas de débat là-dessus. En quatrième, moi, j'ai mis Le Gâteau du Président.
Ah oui.
Bravo.
Voilà. Par contre, le réalisateur, j'ai pas. Bon, enfin, c'est pas. J'aurais du mal à prononcer son nom.
Film irakien.
Oui, film irakien. Donc, qui a un postulat de départ assez puissant, c'est-à-dire que sous la dictature de Saddam Hussein, tout le monde doit participer à la célébration du grand timonier, enfin, je dis ça. Et donc, dans les écoles, même les écoles primaires, quelqu'un, un élève, une élève est désigné pour préparer un gâteau en l'honneur de l'anniversaire du grand Raïs. Sauf que c'est la dèche, il y a pas de denrées, il y a rien, et l'élève en question, pour éviter la punition bien sûr qui risque de s'abattre sur elle, est obligé de faire un parcours du combattant pour trouver tous les bons ingrédients pour faire ce magnifique gâteau. Alors, je vous laisse imaginer toutes les symboliques qui vont avec. Et le film est assez, était bien assez passionnant à suivre. Les enfants, les acteurs, très très bons.
Sont épatants les deux enfants du film. Ouais.
Donc c'était une très bonne surprise de cette année. Enfin, de
le
ce
gâteau
début.
du président. De Hassan Hadi.
Oui. Ouais. Merci.
Non, mais merci Wikipédia.
oui, c'est vrai.
Notre pense bête à tous.
Rando à César, ce qui lui appartient.
Oui, je dois l'avouer. Vincent.
Alors moi, en top 4, j'ai mis Christie, le film de David Michaud qui rendait hommage ou qui portraiturait la boxeuse Christie Martin, une boxeuse américaine, une boxeuse boxe anglaise, je m'en souviens, en tout cas, et interprétée par Sidney Sweeney, métamorphosée, irreconnaissable pratiquement, alors qu'elle sortait la même année un mauvais film, on va dire, à savoir La Femme de Chambre, l'adaptation des...
L'inévitable Sidney Sweeney, qui a dû faire à peu près 8 films entre la moitié de 2025 et la moitié de 2026.
Entre les séries et les cinémas et les films, oui, effectivement, elle a beaucoup, beaucoup tourné. Et Christie, un film qui a totalement pas marché aux États-Unis, pas beaucoup en France non plus, c'est bien dommage parce que pourtant je suis pas un gros fan des biopics et d'une, on a vu tout sur la boxe, il y a franchement comment faire encore du neuf sur un sujet comme ça. Malgré tout, le portrait de cette femme était avec ses fêlures, avec ses angles, avec ses angularités, avec ses parfois son comment dire, le côté très pas sympathique de la personne, eh ben ça arrive à faire un grand film de 2 heures qui tient vraiment sur ses épaules, avec un autre acteur qu'il faut citer quand même, c'est le Ben Foster qui est en face, qui joue son compagnon, enfin à la fois son entraîneur puis son mari, un personnage assez horrible dans l'histoire, et tout ça faisait un grand film que moi je voulais mettre dans mon top 5, avec là aussi une belle intensité du début jusqu'à la fin. J'ai pas vraiment trouvé de temps mort. J'ai trouvé que c'était très solide, très très solide en termes de film, voilà.
Et
de
biographie. Oui, enfin, j'ai un peu hésité à le mettre aussi. Par contre, par rapport à ce que tu disais, quoi faire de neuf avec avec la boxe. Là, il faut bien voir que dans le film, la boxe féminine est
Déjà,
vraiment dans un ghetto.
Oui, en tout cas, c'est ce qui est décrit dans le début.
Et donc, du coup, c'est pas le parcours habituel qu'on voit sur tel ou tel boxeur hyper célèbre. Voilà. Bon, évidemment, c'est l'ascension.
Et le déclin.
Ça, c'est assez classique, mais l'univers dans lequel ça se passe, lui, il est loin d'être habituel, quoi. C'est pas tendant.
Donc, ça aussi, c'est bien décrit dans.
Je trouve que c'est bien de mettre en lumière certains films comme ça, comme tu disais, c'est un film qui est passé comme un météorite, certains météorites, films qui passent dans le paysage de l'année cinématographique, et c'est bien de temps en temps de remettre un peu de lumière sur certains.
Oui, je suis d'accord, beaucoup de films et qui restent très peu de temps à l'affiche. Eh bien, moi, en position 4, j'ai choisi Un jour avec mon père de Akinola Davis Jr., qui est un réalisateur britannico-nigérien. C'est son premier long métrage qu'il a écrit avec son frère Whale. Et c'est une fiction fantasmée qui est inspirée de leur propre père. Et qui dresse son portrait, un portrait qui est très sensible, intimiste, et qui. De ce père qui était absent pour son travail et pour son activité militante. Et c'est un très beau film qui est tourné en pellicule 35. Il est très beau et ça, donc ça se passe en fait en 1993, le jour des élections présidentielles au Niger, où il y a eu beaucoup de morts. Et donc le film montre, enfin c'est un film qui parle d'une petite histoire et de la grande histoire, comme on dit souvent, et qui nous montre un pays en crise, qui un peuple aussi en colère face donc à l'autoritarisme, et en même temps un film qui montre une très belle relation entre ce père et ses fils. Voilà, Un jour avec mon père, que j'ai adoré. Je vous propose une pause musicale avant de reprendre notre top 5. Et vous savez, tous les ans, ce sont les Golden Globes.
Ah oui.
Ah oui.
Mais c'est quand, c'est en début d'année, les Golden Globes? Non, mon souvenir, c'est en janvier ou février, un truc comme ça.
Oui, c'est en janvier.
C'est juste avant les Oscars.
Juste avant les Oscars.
C'est ça s'enchaîne en début d'année. Et donc, je vous propose de réécouter un morceau de la bande originale du film Sinners de Ryan Coogler, dont la bande originale a été créée par Ludwig Göransson, qui a aussi composé, si je ne me trompe pas, la BO de... L'Odyssée, qui vous avez dû entendre parler de sa sortie.
Tu ne te trompes pas.
Et donc, je vous propose de réécouter un morceau et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus Orléans.
Thank you.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. On vient d'écouter un morceau de la bande originale du film Sinners de Ryan Coogler, composé par Ludwig Göransson, qui a reçu le Golden Globe de la meilleure bande originale en 2026. Voilà, et nous sommes donc de retour pour Alors on se fait un film, l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Mais là, on revient donc sur le premier semestre 2026 pour ce top 5. Et nous en sommes au numéro 3. Gob, si tu...
Alors mon numéro 3, moi, c'est un film que, dont j'avais parlé ici avec, il me semble, beaucoup, de, beaucoup de, d'affection pour ce film qui en provoque forcément. Alors c'est un film qui s'appelle Plus fort que moi, un film britannique de Kirk Jones, qui est donc l'histoire vraie d'un jeune homme qui est atteint du syndrome de la Tourette et donc qui effectivement a eu un parcours assez incroyable, qui a créé les premiers instituts pour que les gens atteints de ce syndrome puissent se rencontrer, évoluer thérapeutiquement ensemble, et il a fini par être décoré par la reine d'Angleterre pour son œuvre, voilà. Et donc ce film raconte sa vie, et alors ça pourrait être un épouvantable mélo bourré de pathos et tout, mais pas du tout, pas du tout. C'est un film extrêmement attachant tout le temps. Il y a énormément d'humour sur un sujet difficile parce que, et qui pourrait être d'une tristesse incroyable, parce que ce type, il est accablé pendant une bonne partie de sa vie par son syndrome, et dans sa vie sociale, dans sa, et tout, au début, il est brimé. Il est brimé par ses parents et tout. On le traite comme un pestiféré pratiquement. On le rejette. C'est les coups de règle sur les doigts pratiquement pour rentrer dans le rang. Hein. Et petit à petit, il va croiser effectivement des gens, notamment un personnage de gardien de gymnase qui va lui proposer de travailler, qui est joué par Peter Mulan, qui est ce type réalisateur et acteur extraordinaire qui joue un rôle d'une humanité incroyable. Franchement, ce type, on a envie de l'avoir comme copain, quoi. C'est incroyable, et il va le prendre sous son aile, et ça donne des scènes mais qui sont tellement attachante, quoi, tellement émouvante. Et voilà, le film est porté par l'énergie en plus de son interprète principal. Voilà, on accompagne ce type de la première à la dernière minute du film avec un mélange de compassion et de franche comment dire, amitié, parce que ça devient comme un ami pour nous, ce personnage. Et le film est extrêmement touchant, et met en lumière aussi ce syndrome, et en plus, voilà, c'est tout ce qui fait souvent la différence de ce cinéma social anglais, c'est que il y a une vraie dimension d'humour, mais qui n'éteint jamais l'émotion. Voilà, et ça, c'est un truc qui réussissent particulièrement bien les Anglais. Et voilà, c'est pour ça que ce film est troisième dans mon classement, et que voilà, c'est des films qu'il faut voir, parce que c'est des films utiles, et c'est des films qui quelque part vous rendent un peu meilleur après.
Arnaud.
Oui. Alors, on en avait, enfin, Vincent en avait parlé dès le début. J'ai mis The Drama en 3. Pour les raisons, à peu près les mêmes raisons, c'est-à-dire déjà le couple d'acteurs qui est assez impressionnant, dans des registres on n'a pas forcément l'habitude de les voir, et puis cette histoire effectivement à tiroir secret. Bon voilà, enfin qui était.
C'est bien, vous spoilez pas.
Non,
pas l'intention.
C'est bien les gars. Bravo. Il y a des gens qui n'ont pas vu encore le film.
Bravo.
Voilà, enfin bon, après la prémisse éventuellement de l'histoire, c'est donc un couple.
J'ai pas trop parlé tout à l'heure, c'est vrai.
Un couple donc qui va se marier et qui, lors d'une réunion avec un autre couple d'amis, finissent par se poser un défi complètement stupide. À savoir, dis-moi le pire truc que tu aies fait, etc. Et donc, à partir de ça, il y a...
On va découvrir qu'ils ont fait des trucs vraiment pires.
Fait ou plus ou moins. Enfin bon, après, évidemment, c'est au jugement des uns et des autres.
Oui, voilà. Ouais. C'est par rapport à ta morale aussi à toi.
C'est aussi voilà par rapport à ta morale. Donc après tout va tourner autour d'une des révélations et de la façon de l'accepter et puis de ce que ça renvoie après de différent de l'image qu'on pouvait avoir d'une personne ou d'une autre.
Voilà. Et ça fonctionne bien ça. Ouais.
Oui. Voilà. Okay. Mais la mise en scène aussi était quand même.
Enfin, je veux dire, très belle photo. Aussi,
c'est pas juste un jeu de dialogue et
c'est qui a réalisé le film déjà? Tu l'as dit.
Alors, Christopher Borgli.
Ouais.
D'accord.
Si je ne m'abuse. Voilà. Donc c'était pas. Enfin, c'était assez bien.
Merci Vincent.
Alors moi, en troisième position, j'ai mis un des films événements du premier semestre. Événement, on va dire. Médiatique, je sais pas comment on peut dire, peut-être même de l'année, pour l'instant en tout cas du semestre c'est sûr. J'ai mis Backrooms en fait de Ken Persons.
Oui.
On en avait beaucoup entendu parler avant même qu'il sorte par sa réputation de prémisse via les réseaux, via le net, avec au début initialement des images. C'était un truc un peu mystérieux, un peu comme on en découvre plein sur le web. Et on se dit en passage cinéma, qu'est-ce qui va en rester? Est-ce que ça va pas être un soufflet qui retombe avec aucun intérêt derrière, ce qui pouvait être parfaitement le cas d'ailleurs. Je suis même allé un peu à reculons, on va dire, en pensant que ça pourrait être un truc qui va retomber totalement tout de suite. Et là, la surprise a été plutôt bonne. C'est pour ça que je le mets quand même dans mon top 5. D'une part, parce que, ce qu'il expliquait, c'est-à-dire la dimension métaphysique des espaces, ces fameux backrooms, c'est des espaces vides assez angoissants qui sont des dimensions parallèles à un vrai bâtiment, comme s'il était étendu de manière infinie. Donc ça, c'est plutôt intéressant formellement, mais ça pouvait rester que là, de l'univers à la M.C. Escher, par exemple. Et qu'est-ce qu'on va en faire de plus? Donc ça, je me dis, c'est bon à prendre, mais s'il n'y a pas d'histoire, ça va m'énerver vite. Et en fait, alors ça j'ai appris par toi, par ton entremise dans la voiture tout à l'heure quand je t'amène ici, Xavier me révèle en fait que le film faisait 1h30 dans sa version de montage départ, et ils ont rajouté 15 à 20 minutes, enfin un quart d'heure en tout cas de plus, et
moi j'ai d'emblée
vu moi une version d'1h50, de presque 2h.
Donc toi t'as vu la version ressortie.
Ouais. Et alors on a eu dissension sur les 15 minutes en plus, qui peuvent être fumeuses pour Xavier, moi j'ai trouvé que ça rajoutait justement une dimension narrative bien plus intéressante, ça portait plus loin le film, et j'ai trouvé que pour ça il était encore plus intéressant. Moi j'ai savouré la dernière partie parce qu'elle mettait en abîme ce qui se passe avant, et j'ai trouvé que donc non seulement la dimension, on va dire, géométrique du film devient une dimension métaphysique assez intéressante, mentale même, puisqu'on est dans le cerveau du personnage, ça va vraiment loin en fait dans la prolongation de la narration, de l'histoire, et pour ça je l'ai mis comme ça, troisième, parce que j'ai été quand même cueilli, je m'attendais à ce que ce soit un phénomène un peu mode, un peu comme il en existe trop malheureusement, et ben en fait, comme quoi on peut avoir des phénomènes purement web, purement, on va dire de la nouvelle génération, qui se solidifient, qui se construisent, qui s'assument en cinéma, et j'ai trouvé que pour le coup c'était plutôt cool, voilà, plutôt chouette.
Mais bon, moi, je rentrerai pas dans le débat.
Non, tout à l'heure,
on l'a dit que pour Colony, on rentrait pas dans le débat. Donc voilà, moi j'ai pas beaucoup aimé le film. Pour moi, c'est un peu une baudruche justement conceptuelle du web. Mais voilà, donc on
rentrera pas dans le débat. On peut le percevoir de façon différente.
Ces 15 minutes de plus, est-ce que c'est des rajouts dans le film ou c'est à la fin?
C'est un complément qui prolonge. Ah, moi, je sais pas à quoi il pouvait ressembler. Mais
moi, ce que je pense, c'est qu'il a tourné effectivement. C'est ce que j'ai compris de ce que j'ai lu. Il a tourné effectivement ces séquences en plus. Elles étaient normalement, elles devaient s'intégrer à une ce qui va être une suite parce qu'il va prolonger. Le film en plusieurs épisodes.
Oui, bah oui.
Il s'est déjà prévu. Et à mon avis, pour moi, c'est une grosse opération commerciale.
C'est pas faux.
Ils ont voulu profiter du succès du film pour ressortir tout de suite après la première sortie le même film avec 15 minutes en plus. Voilà. Donc pour moi, c'est une pure opération commerciale. Voilà.
Moi, j'ai adoré la première partie.
Ouais. Et moi, la fin.
Et
pas du tout la fin. Bah oui, c'est pour ça. C'est ça qui est intéressant.
Pas du tout. Bref. numéro 3, oui, mon numéro 3, c'est Las Corrientes de Milagros, oula, est-ce que j'ai bien le prononcé encore, Mamen Taylor, bon, pardon, c'est une réalisatrice argentine, c'est son troisième long métrage, et c'est un film, c'est sur une styliste argentine qui devient hydrophobe, après s'être jetée dans un fleuve, voilà, volontairement et sans raison. Donc c'est très très mystérieux, et moi j'adore en fait ces films qui ne donnent pas en plus toutes les réponses et qui laissent en fait la place, le temps de se questionner pendant tout le film. En plus la photographie est magnifique, enfin, j'aime beaucoup, et puis ça vacille sur un côté fantastique. Je suis sûre que Gob, toi tu aimerais...
Comme souvent les films sud-américains.
Oui. Voilà, c'est ce qu'on avait dit au moment de la chronique. Et j'aime aussi beaucoup parce que c'est un personnage qui est, donc, qui est mystérieux, mais qui nous ressemble en fait beaucoup dans nos tourments. Et c'est, voilà, c'est pour tout ça que c'est mon numéro 3, Las Corrientes de Milagros. Je vais pas pouvoir le reprononcer, mais même tout à l'heure.
Bon. Elle te pardonnera.
On arrive au numéro 2, Gob, si tu veux bien.
Et un film de femme, une réalisatrice réalisé, que je sais que tu aimes beaucoup.
Réalisé par une femme.
Oui, réalisé par une femme. Je sais que c'est une réalisatrice que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Chloé Zhao.
Ah bah oui.
Voilà, donc c'est le film Hamnet, qui est sorti en tout début d'année. Voilà, alors... même chose que ce que j'avais dit à l'époque quand je l'ai vu. Comme souvent chez Chloé Zhao, ça ne m'a pas complètement convaincu, c'est vrai. Mais il y a une telle conviction dans le cinéma, dans ce qu'elle fait. Il y a une telle envie de cinéma dans ce qu'on voit à l'écran que c'est vrai que les quelques scories, les quelques exagérations, on va dire, parce que des fois, oui, c'est vrai qu'elle se laisse un peu emporter, qu'elle en fait un petit peu beaucoup par moment, que même l'actrice principale qui a eu l'Oscar, qui est formidable, hein, elle est absolument formidable, mais moi, je trouve que oui, par moment, elle se laisse un peu emporter par le romanesque exacerbé de ses films, et voilà, bon. Mais... Ouais, elle est tellement convaincue par la puissance, on va dire un peu tellurique, que peut avoir le cinéma, que ça emporte les réticences. Et puis c'est vrai, voilà, il y a ce final extraordinaire. Pour moi, c'est un des plus beaux moments mélodramatiques de cinéma que j'ai vu de ma vie. Je pense que c'est impossible de ne pas être emporté dans un torrent d'émotions et de larmes dans la fin de ce film, qui est, voilà, c'est absolument, ne serait-ce que ces 20 minutes là sont un moment totalement sublime, et rien que pour ça, il faut voir ce film. Voilà, et parce que cette réalisatrice est aussi une personnalité extrêmement attachante, qu'elle a un talent débordant, et que je pense qu'elle va nous faire encore mieux dans les prochaines années. Voilà, donc Hamnet, c'est mon numéro 2.
Oui. Arnaud ?
Oui, présent. En numéro 2, bon, on en a déjà parlé. Backrooms.
Ah ben voilà,
voilà. Bon, je pense l'avoir un peu surcoté. Je m'en suis rendu compte en faisant ma liste, etc. Je me suis dit, bon, bref.
Tu t'es dit, mais pourquoi est-il là?
Pourquoi est-il là? Non, non, si. Alors, pourquoi est-il là? Bah, oui, si, parce que c'est une nouvelle proposition qui est assez, surprenante dans notre paysage cinématographique un peu pauvre en termes de films de genre. Faudra qu'on en reparle en off par rapport à la fin, mais je crois savoir ce qui a été rajouté. Je pense l'avoir deviné en vous entendant. Néanmoins, je trouve que n'ayant pas suivi du tout le phénomène sur Internet qui a mené au film, ce que j'ai trouvé entre autres très intéressant dans sa mise en scène et dans son propos, c'était la sensation d'une méga imprimante 3D qui déconne. Les décors semblent avoir été faits finalement par
tu vois ce que je veux dire.
Cette sensation là je la trouvais vraiment captivante. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai mis à cette place là et encore une fois parce que c'était une proposition à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et je trouve que avec un autre dont on parlera sans doute, qu'il y a part de la jeune génération des propositions là qui enfin nous amènent de l'oxygène, si on peut exprimer comme ça, ce qui manque quand même cruellement depuis quelques années. Voilà.
Carrément, oui, je te rejoins.
Alors moi, mon deuxième film, Arnaud en a déjà tout à l'heure parlé, il l'a mis en cinquième, moi je vais le mettre plus haut, je vais le mettre en deuxième position, c'est 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, Bone Temple, la suite donc du précédent, que j'avais pas aimé du tout, et c'est là comme quoi le cinéma est magique parfois, c'est que sur une mauvaise expérience précédente, comment faire quelque chose qui marche super bien derrière, et en fait, c'était quand même Danny Boyle qui réalisait le précédent, donc 28 ans plus tard, pour le coup, comme le dit le film, il avait réalisé le premier, et là, il avait positionner des choses dans son précédent film, mais ça marchait pas. pour je ne sais quelle raison. Son film était bancal, ça ne fonctionnait pas du tout, mais par contre, certaines pistes étaient déjà amenées et intéressantes. Bing, on met une réalisatrice à la tête de la suite, et là, on a un film extraordinaire, qui est tout de suite intense. Il vous prend aux tripes dès le départ, dès le début. On retrouve effectivement les choses qui étaient déjà annoncées dans le précédent. Et là, tout réussit, tout fonctionne, parce que ces pistes étaient juste évoquées. Et là, elles sont continuées, développées, narrées. Et elles sont glauques, c'est que c'est un film difficile. Bon, vraiment, il est rude, hein. Moins de 16 ans, c'est mérité.
Vincent, justement, ouais. Est-ce que tu ne penses pas que... Oui. Comme on sait que c'est comme Danny Boyle et son scénariste à l'origine des deux du diptyque qui sont sur le scénario et tout. Est-ce que tu penses pas justement que comme des fois dans ce genre de cas qu'ils ont justement fait le choix de poser les bases la première partie et que finalement Nia DaCosta arrive aussi sur un moment où les choses sont développées avec plus d'intensité et donc, ce qui n'enlève rien à son talent de réalisatrice.
Je sais pas quelle part elle a eu de liberté, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle a pu...
Je me pose la question.
Moi je suis sûr, mais en tout cas elle a su en tout cas j'espère qu'elle a eu une grande latitude de proposition dans les façons de présenter le film, parce que c'est vachement culotté. Il y a énormément de choses savoureuses, même si c'est vachement glauque. Mais moi, j'ai jubilé pendant tout le film, pratiquement, avec un Ralph Fiennes extraordinaire. Alors, il y a une suite possible parce que le film finit, et ça, c'est pas forcément.
Il y aura une. Il y a déjà, je crois que c'est déjà prévu.
C'est une trilogie, et ce sera Danny Boyle qui clôturera ce triptyque. Et moi, là, j'attends pas forcément grand chose de la fin, parce que Danny Boyle, il est plus comme avant, c'est plus vraiment le même metteur en scène. Mais en tout cas, ce milieu de film, ce milieu de triptyque aura été un peu magique. Il faut aimer le genre, encore une fois, je ne veux pas vous dire que c'est quand même particulier, c'est corsé, mais il y a des choses folles, il y a des choses impressionnantes, il y a une force de conviction du récit. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé, avec des références bien évidemment à des grands classiques, The Day of the Dead, etc., avec toujours le concept d'un zombie qu'on peut contrôler, qu'on peut un peu manipuler comme un monstre de Frankenstein. Il y a de l'humour, heureusement, pour détendre un peu la chose, mais ça reste quand même un film très noir, super glauque, anglais, très anglais, et ça c'est sympa. Il y a quand même toujours la filiation d'Danny Boyle. Voilà pourquoi je le mets en deuxième position.
Voilà. Oui, super. Eh bien, moi, mon numéro 2, c'est Die My Love de Lynn Ramsey, le film avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson.
Ah, t'as deux films dans ta sélection qui sont des films à voir pour moi. Je n'ai toujours pas vu. Hamlet, toujours pas vu. Et Die My Love, toujours pas vu.
T'as pas vu Hamlet ?
Mais non, mais on en a parlé déjà à l'époque. Je devais le voir le lendemain ou le surlendemain qu'on s'était croisés.
Je me rappelle.
Et il s'est passé des mois et je ne l'ai pas vu encore. Donc je l'ai en réparation. Il faut vraiment que je le fasse. Voilà.
Mais moi, c'est pareil. Là, tous vos films, j'ai pas réussi à les voir. Donc il va falloir faire un rattrapage rapide.
On a des sessions de rattrapage.
Ah, c'est clair. Die My Love, alors.
Alors, Die My Love, eh bien, ce film m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que c'est une expérience qui est quand même complexe, dans laquelle il faut, je pense, se plonger sans jugement. Et pour moi, c'est l'histoire d'une femme anticonformiste, ce que j'avais expliqué à l'époque, et qu'on peut percevoir vraiment dans des petits détails que la réalisatrice montre au fur et à mesure. Et je trouve que Jennifer Lawrence est juste incroyable dans ce personnage qui a dû être très compliqué à jouer. Et pour moi, c'est un animal sauvage dans une cage qui ne veut pas en fait devenir cette femme ou cette mère qui doit correspondre à nos codes actuels, qui sont des codes patriarcaux. Dans notre société qui est violente et quand on ne rentre pas dans ce moule, eh bien, voilà, on le paye cher. Et je trouve que ce film montre tout ça subtilement et avec une beauté, je trouve, dans la mise en scène, dans des scènes qui, moi, m'ont marqué. Enfin, voilà, quand on dit « Die My Love », je vois tout de suite des scènes qui me reviennent entre la vitre cassée, le final aussi. Voilà, y a des choses qui me restent et ça, pour moi, ça rentre aussi dans des films qui fonctionnent quand les images restent dans la mémoire. Voilà mon numéro 2, « Die My Love » de Lynn Ramsey.
Donc finalement, Robert Pattinson, il est dans les coups.
Il est dans les films.
Dans les duos.
Non, mais là, Pattinson, c'est l'acteur qui devient la grande valeur sûre en ce moment.
C'est vrai.
On n'a pas fini de le voir parce que bientôt.
Robert est un être ambigu.
Je crois.
Oui, surtout, c'est des personnages assez.
Il va nous surprendre. Il sort là bientôt dans un film là, qui va sortir d'ici peu, un mois ou deux. Là. Je ne sais plus comment il s'appelle le titre, mais il est déjà très attendu. Hein. Voilà. Bref.
Oui. Il est bon, il faut l'avouer. Je vous propose une deuxième pause musicale avant de lancer notre...
Avant le number one.
Oui.
Parfait, voilà. On a le temps, c'est tranquille, c'est bien.
Oui, effectivement, on n'avait qu'une heure et c'était très bien.
On est très bien.
Et donc, pardon, je ne l'ai pas préparé, dis donc. Donc, pour ce deuxième morceau, moi, je vous propose qu'on écoute... c'est un morceau d'un film que tu as adoré, Gob, qui est un film d'animation Arco.
Oui, c'est vrai.
Qui a reçu des prix, qui a reçu le César du meilleur film d'animation, il me semble. Oui, si, c'est ça. Et donc, je vous propose d'écouter la bande originale du film.
Qui est très belle.
Arnaud Toulon, oui, effectivement. Et donc Arco, qui est un film d'animation de Hugo Bienvenu, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est fait. Et donc je vous propose d'écouter un morceau et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus Orléans. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans, on vient d'écouter un morceau de la bande originale du film d'animation Arco, bande originale composée par Arnaud Toulon. Et nous sommes donc de retour pour la dernière partie de cette émission consacrée au top 5 du premier semestre 2026. Et je laisse la parole à Gob pour son numéro 1.
Eh bien, mon numéro 1, c'est le premier et donc unique film français de ma liste. Vincent en a déjà parlé en début d'émission. C'est un film qui s'appelle Des rayons et des ombres, le film de Xavier Giannoli. Voilà, moi j'ai été complètement emballé par ce film qui, pour moi, coche toutes les cases d'une réussite. C'est extrêmement bien écrit. Ça porte sur une période historique qui reste un peu compliquée pour beaucoup de gens en France. En plus, là, il y a un éclairage sur la collaboration qui est tout à fait neuf, qui peut porter le flanc aussi à la critique, ce qui a été le cas, puisque c'est un film qui a été beaucoup attaqué, beaucoup critiqué, notamment par un certain nombre d'historiens. Voilà, moi j'ai gardé le côté romanesque. Les personnages sont quand même très bien écrits, très forts. Claude, on te resalue, en avait beaucoup parlé de cette histoire autour du sanatorium. C'est une part importante du film, mais c'est ce rapport à la maladie, à la renaissance, c'est très très important. Et puis voilà, il y a tout ce côté sur comment des personnages, comment des gens qui au départ sont des pacifistes, sont des gens, des utopistes, des pacifistes, des gens bien qui veulent une société meilleure, comment ces gens vont glisser vers la pire idéologie du monde, vont devenir des collaborateurs, et tout ça est montré avec beaucoup d'intelligence et de recul. Et puis il y a une vraie puissance romanesque, une vraie densité dans le récit. On est emporté par ce film assez long quand même, pour moi c'est ce que le cinéma français peut encore produire de meilleur de temps en temps, et c'est pour ça qu'il est premier pour moi.
Je pensais pas que tu l'aurais mis premier. Du coup, j'en ai très très peu parlé en cinquième position, mais voilà, tu as dit aussi effectivement tout ça. J'étais aussi dans le même mood de conviction que toi. Ouais.
Moi, ça me pose quand même souci, parce que le cinéma, c'est politique. Tout est politique. Il y a une responsabilité quand même des réalisateurs et des réalisatrices qui touchent notre société et influencent notre société. Je trouve que ils ont une grande responsabilité. Et en fait, ce type de film, alors je ne l'ai pas vu. Voilà, donc je ne vais pas effectivement juger sur le contenu, sur la réalisation, je vais dire. Mais c'est le genre de souci où après j'entends que Pétain était de gauche. Voilà, j'entends ce genre de discours aujourd'hui. Donc, ouais, il faudrait aussi que les réalisateurs et les réalisatrices. Vous avez un regard critique, mais pas tout le monde. Donc, je pense que ça a un impact, et il faut vraiment que les réalisateurs et les réalisatrices aient conscience de cette responsabilité.
Mais on ne va pas faire le débat aujourd'hui, mais je peux t'assurer, Céline, que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, un peu de tout et n'importe quoi qui a été dit sur ce film sur les réseaux sociaux, et notamment par des gens qui ne l'ont pas vu. Et je pense que le film n'est absolument pas attaquable sur ce flanc-là, et qu'à aucun moment il n'y a de malentendu sur le mal qu'a fait la collaboration. Aucun moment.
Oui.
Mais bon,
on n'est pas là pour débattre.
On va avancer.
Arnaud, ton numéro 1.
Personne n'est à l'abri d'être récupéré, même après avoir eu de bonnes intentions. Mais bref, donc en premier, Obsession.
Voilà. C'est marrant, je l'attendais.
Oui. De Curry Barker, donc le film là qui est encore à l'affiche après je ne sais combien de mois d'exploitation.
Trois mois. Il y a des films qui restent longtemps à l'affiche.
D'ores et déjà le plus gros succès de l'histoire du cinéma fantastique dans le monde. Je l'ai lu. Oui.
C'est. Oui, enfin c'est parce qu'il avait le budget.
Oui. Il y aura eu un rapport budget. Mais c'est en nombre d'entrées. C'est le plus grand succès du cinéma fantastique. À ce jour, parce que le film fonctionne et marche dans le monde entier. Vraiment, c'est un phénomène incroyable.
Donc par rapport à ce que je disais précédemment sur Backrooms, là aussi on est sur un réalisateur qui vient du web, etc. Alors j'aimerais quand même glisser une petite nuance là-dessus. Les types, c'est pas un gars qui s'est dit un jour tiens je vais mettre ma caméra et puis je vais faire des vidéos. Ils ont quand même un background, lui comme celui de Backrooms, qui fait que ils ont accès à des connaissances, à une culture, etc., qui fait que c'est pas les premiers venus non plus. Mais bon, voilà, ils ont tous les deux, donc dans Obsession, des propositions que on n'avait pas vues soit depuis longtemps, soit qu'on n'avait pas encore vues. Et donc là, dans ce film, dont le principe de base est quand même relativement facile à écrire, à savoir j'aime bien Machine, mais j'arrive pas à lui parler, etc. J'ai une espèce de farce et attrape, on pourrait dire, à vœux, pour faire des vœux. Je le fais comme ça, et puis de toute façon, bon, ça marche pas, c'est de la gnagnote, etc. Bon, il se trouve qu'on est dans un film, donc fantastique, horrifique. Son vœu marche, donc il veut que cette personne qui l'affectionne beaucoup soit absolument amoureuse de lui. Et évidemment, comme on est dans un film d'horreur, ça déraille. Mais alors, c'est pas juste de l'horreur pour de l'horreur, c'est-à-dire que en filigrane, plus qu'en filigrane, il y a tout ce qui est consentement, et j'en passe, c'est des meilleurs.
Et là où la proposition qu'il nous fait, moi, m'a pas mal impacté, c'est dans sa réalisation, c'est-à-dire que des choses finalement assez simples qu'on aurait vues ailleurs et qui seraient d'une fadeur absolue, là pour le coup prennent en puissance et le jeu des acteurs n'y est pas pour rien non plus. Donc voilà, je trouve que son succès est plutôt mérité. C'est pas le meilleur film du cinéma de tous les temps, etc. Mais en tant que maîtrise sur son sujet, sur ses effets, cette année, c'est un bon cru.
Et il est encore à l'affiche, tu dis.
Oui, il est toujours à l'affiche, plus de 3 mois et demi après.
Ouais,
c'est un succès incroyable.
Très bien.
C'est souvent ça le comble d'ailleurs, en fait. Oui. Ben, je vais te suivre là-dessus. Hein.
Il me semblait qu'il allait y avoir un enchaînement.
Là, on est en symbiose parce que effectivement, indépendamment du phénomène qui maintenant n'est plus occultable, parce que vraiment, effectivement, comme
oui,
tu disais,
on est obligé de parler de phénomène. Oui, oui.
Il y a une nombre d'entrées. C'est pas forcément le fait qu'il va rapporter en finance, mais c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui le voient en fait partout dans le monde
et qui continuent à avoir envie de le voir.
Moi, j'ai après sur le côté, comme tu dis Arnaud, c'est pas le meilleur film de tous les temps en cinéma fantastique horreur. Nous, on a des chefs-d'œuvre, on les connaît, nos chefs-d'œuvre, on les adore, on revendiquera toujours. Ils sont pour moi dans l'âge d'or, ils sont dans le passé. Là, on a un film qui est moderne, qui est novateur et qui est, comme m'a dit ma collègue de boulot dans l'après-midi, on en parlait pour X raisons, elle m'a dit, et je vais prendre ses propos, elle a dit c'est un film très simple, mais il a la force d'être lisible de plein de façons. Et générationnellement parlant, moi je rajouterais, il est lu de manière très différente. Et c'est ça la force d'un film d'aujourd'hui réalisé par Curry Barker, ce qui propose un postulat qui est interprétable comme on le veut, et comme il est malléable dans la façon d'interpréter avec les nouveaux mouvements de pensée aujourd'hui. Donc il est très plurilectoriel, on va dire, je sais pas comment vous dire.
Excuse-moi, hein, juste entendre une petite parenthèse, ouais. ça peut même réveiller des souvenirs douloureux.
Peut-être aussi, bien sûr. Et puis, indépendamment de ça, ce qui est pas négligeable non plus, et ce qui est vraiment, comme tu le dis, je suis d'accord là-dessus, c'est la forme formellement, il est très très bien fait, il est très bien réalisé, et il est millimétré sur les plans. Sur la photographie, la lumière, on parle souvent, on râle tellement de fois sur les films noirs, les films fantastiques très sombres, trop sombres, où on a l'impression que c'est fait exprès ou que le projecteur en salle il marche pas, tellement c'est dans l'obscurité. Là, c'est un film très souvent obscur, mais qui maîtrise ce qu'il faut juste dévoiler dans les plans, dans les visages des actrices et des acteurs, que c'est vraiment, là on sent c'est de l'orfèvrerie. Et moi c'est ça, moi je reconnais ça, on n'a pas la peine de batifoler là-dessus, c'est un film qui est extrêmement maîtrisé sur le plan visuel, le sujet il est tellement pluriel et tellement interprétable de plein de lectures qu'il est donc riche, et il va évoluer je pense aussi, à voir ce que le gars va proposer par la suite, c'est pas gagné que ce soit tout le temps la réussite comme ça, hein, bien sûr, il prévoit déjà une suite, ce qui m'embête un peu, en tout cas en tant que film individuel, film unique, Obsession fera date, je pense, dans l'histoire du cinéma fantastique horreur, voilà.
Eh ben, j'irai bien le voir au cinéma, du coup, punaise, il faut en profiter.
À savoir que l'actrice, la jeune actrice qui incarne, qui porte
encore
vraiment...
un truc à noter,
voilà. Oui. Alors elle a bien évidemment été observée, repérée, elle jouera probablement dans les Marvel qui vont venir. Ouais. Bon, elle a déjà indépendamment, elle a une vraie conviction de jeu. Dans ce film-là, elle a été très, très en fusion avec la.
C'est son premier rôle ?
C'est son premier rôle de long métrage, ouais, tout à fait.
Bien. Ouais. Eh ben, je finis sur mon numéro 1, bah, Gob.
Je le connais, ton numéro 1.
Je m'en doute un peu.
on sait tout de suite lequel c'est.
Oui, je me suis vidée. Enfin, toute l'eau de mon corps est partie lors de cette projection. C'est effectivement Hamnet de Chloé Zhao. j'ai tellement aimé et tellement d'émotions. Et c'est son 5e long métrage. Cette réalisatrice qui est chinoise et émigrée aux USA. Et j'aime ce film parce que voilà, ce rôle où Jesse Buckley donc, a reçu cet Oscar. Oui. Et c'est un personnage qui est plutôt marginal dans cette Angleterre du XVIe siècle qui fait des choix, qui suit vraiment ses propres choix et... qui est une femme athée, et c'est drôle comment c'est montré. En fait, j'aime beaucoup comment elle écrit ses personnages et ce couple aussi, en fait, cette relation, parce que c'est quand même Shakespeare, alors que c'est Shakespeare, mais je m'en rends compte qu'à la fin du film. voilà, j'avais rien vu avant. Et je trouve ça super parce que voilà, c'est un couple aussi qui est vraiment intéressant, à l'écoute, dans la bienveillance. Et je trouve que c'est bien aussi de voir ce genre de modèle où il n'y a pas de violence entre eux, malgré toutes les épreuves qu'ils vont subir. Mais j'aime la sensibilité de cette réalisatrice, Chloé Zhao. Elle est... Voilà, J'aime beaucoup ses personnages et j'aime aussi sa façon de filmer les paysages, les espaces, la nature. Ouais, et donc ce film m'a effectivement bouleversé. C'est pour ça que c'est mon numéro 1. Voilà.
Et en plus, c'est vrai que c'est une grande admiratrice. C'est quand même une très très grande admiratrice de Jane Campion. Mais on retrouve énormément du cinéma de Jane Campion dans le sien.
Dans les paysages.
Voilà, et comme on dit, mais elle en a retiré le meilleur. Donc, et c'est vrai que c'est très intéressant de mettre en parallèle ces deux femmes qui sont deux réalisatrices magistrales et qui se rejoignent finalement à travers les époques aussi, puisque Jane Campion, première et pendant très longtemps seule femme à avoir eu une Palme d'Or, Chloé Zhao qui a eu un Oscar finalement très tôt, du meilleur film très tôt. Je trouve que c'est vraiment intéressant et très touchant aussi de voir les trajectoires parallèles de ces deux femmes qui sont tellement proches en termes de sensibilité, de visuel. Moi ça me touche encore plus quand on sait l'affection que j'ai pour eux, et pour l'une et pour l'autre.
Oui, effectivement, je te rejoins. Et mais il n'est plus à l'affiche, hein, par contre.
Il y a quand même un truc qui m'intrigue, parce qu'au moment de sa sortie, j'ai entendu quelques critiques négatives.
Oui, il y avait quelques critiques négatives.
Où le couple était plutôt dépeint face au drame, les deux réactions, on pourrait dire opposées, c'est-à-dire Monsieur Cray et elle est à la cuisine, quoi. C'était ça que j'entendais. Je me disais, mais ça a pas l'air de coller.
C'est des gens qui n'ont rien compris aussi.
Ça n'avait pas l'air de coller à ce que vous en dites et ce que j'ai entendu d'autres.
Ça revient comme. C'est le 16e siècle aussi.
Oui,
donc il y a quand même des situations un peu obligatoires. Après, mais ça se fait, c'est pas si simple en fait.
Oui, il y a une subtilité qui est quand même.
Oui, c'est quand même une relation assez particulière. Il y a des choix qui sont faits dans ce couple et qui sont très respectueux et on le comprend. Et même à la fin, on comprend toute cette histoire et je trouve ça bouleversant.